Seigneur qui as rompu le pain avec tes disciples au soir de ta résurrection et qui nous a donné dans ce pain et ce vin les gages de ton royaume. Accorde-nous d'annoncer ta venue dans la joie tous les jours de notre vie. Amen.
Versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et devant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Voilà ce récit de la résurrection dans Marc. Il est très court et on pense que c'était comme ça que ça se terminait, l'évangile de Marc. Il y a une suite a été rajoutée par après. À partir du verset 9, on a encore quelque chose. Mais les exégètes pensent que c'était comme ça le récit primitif dans Marc. Les femmes s'enfuirent de ce sépulcre, de ce mémorial. Le tremblement et le trouble les avait saisis. Elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. Drôle de conclusion. Et c'était ce que Marc voulait vraiment dire. En grec, il y a même le mot traumos, qui donne le français traumatisme. La résurrection a été un traumatisme pour ces femmes. Elles n'ont pas pu en parler. Elles ont fui ça à toutes jambes. Tellement ça dépasse l'entendement. Parce qu'on ne parle pas seulement ici d'un mort revenu à la vie. Il ne faut pas se tromper de résurrection. Jésus a ressuscité pendant sa vie des personnes. La fille de Jaïrus, le fils unique de la veuve de Naïm, ou bien son ami Lazare. Ce sont des morts qui sont simplement revenus à une vie terrestre. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est la fin de la mort. C'est la mort engloutie dans la victoire de la vie du Dieu vivant. Qui peut imaginer une telle chose ? Et remarquez bien qu'aucun évangile ne nous décrit le processus de la résurrection de Jésus. Que nous disent-ils? Ils nous disent, les femmes y sont allées au tombeau, puis il était vide. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut encore dire autre chose. Ce n'est pas les femmes qui nous le diront. C'est Pierre, dans cette prédication qu'il fait dans la maison de Corneille, à Césarée de Philippe. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Césarée de Philippe, comme le nom l'indique, Césarée, il y a le nom de César. C'est une ville importante, portuaire, la capitale de la Judée, la capitale pour les Romains. Et là, il y avait un centurion, un légionnaire romain, avec toute sa légion. Il était italien, d'ailleurs, Corneille, Cornelius, était italien. Et Pierre, pour la première fois de sa vie, il n'avait pas fait même avec Jésus, ça. Il entre dans la maison d'un païen. En grec, païen, ça veut dire ceux qui ne sont pas des juifs. Jamais Jésus n'était allé avec ses disciples dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif. Tout le temps, ça s'était limité aux juifs, le salut, parce que Dieu a choisi ce peuple. Mais là, par le concours de circonstances, par aussi des révélations du Saint-Esprit, Pierre est convaincu qu'il doit aller chez cet homme. Et il lui prêche l'Évangile. Et là, il lui dit quelque chose concernant la résurrection. Dans Actes 10, il dit que Jésus ressuscité ne s'est pas montré à tous, mais simplement à ceux qui étaient avec lui depuis le baptême de Jean-Baptiste et qu'il avait choisi pour être ses témoins, c'est-à-dire aux apôtres. C'est pour ça que nous disons dans le credo, malheureusement ça a été changé dans la formulation, mais les catholiques ont gardé la formulation que Luther et Jean Calvin utilisaient, je crois la Sainte Église catholique et apostolique. Apostolique. Parce que la résurrection, ce sont les apôtres qui en sont les témoins aussi avec les femmes. Et eux, d'une autre manière que les femmes, Pierre dit chez Corneille que nous avons mangé et nous avons bu avec lui après sa résurrection. Et catholique, je vous le signale juste, ça veut dire kata holos en grec, selon tout ce que Dieu nous a révélé. Et dans la ville vers laquelle nous allons pour habiter éternellement, dans la ville Nouvelle Jérusalem, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que les apôtres forment les douze fondements de cette ville qui est la Jérusalem d'en haut. Nous croyons l'Église sainte, catholique, apostolique. Et apostolique, ce n'est pas simplement, oui, parce que nous croyons le témoignage des apôtres écrits dans le Nouveau Testament. Non, c'est aussi leur personne, leur vie de témoin qui constitue notre fondement, le fondement de l'Église. Alors on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi Jésus n'a pas choisi de se montrer comme ça à tout le monde ? Pourquoi Pierre nous dit qu'il s'est montré aux apôtres plusieurs fois, à plusieurs reprises, ils ont mangé et bu avec lui. Et la question lui avait déjà été posée à Jésus par un des apôtres, par Jude. On trouve ça dans Jean 14. Judas, il y a deux Judas, donc c'est le deuxième. Judas, qui a laissé une épître dans le Nouveau Testament, l'épître de Jude. Jude, donc, a dit à Jésus, mais pourquoi te manifesteras-tu seulement à nous et pas au monde entier? Et là, Jésus lui a répondu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons une demeure auprès de lui. Donc Jésus vient se manifester vivant à ceux qui gardent ses paroles. Et ça, c'est à la portée de nous tous. Ceux qui gardent ses paroles feront cette même expérience que les apôtres ont faite avec le ressuscité, mangeant et buvant avec eux. Car Jésus nous dit dans l'Apocalypse, « Je viendrai à lui, je viendrai chez lui, si quelqu'un m'ouvre la porte et nous ouvrons en gardant les paroles. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Ces paroles, c'est Jésus qui les a prononcées. Nous les avons dans les évangiles, nous en avons quelques-unes aussi dans les épîtres, hein, dans les actes des apôtres, notamment dans les actes des apôtres, une parole qui n'est pas dans l'évangile mais qui est de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces paroles sont données par Jésus avec beaucoup de courage pendant tout le temps de son ministère, car s'il n'avait pas enseigné si clairement, on ne lui aurait pas reproché de se faire fils de Dieu, on ne lui aurait pas reproché un tas de choses. S'il avait fermé sa bouche et s'était contenté de faire les miracles, il n'y aurait pas eu la croix. Les paroles qu'il a prononcées lui ont coûté cher. Alors c'est à nous de décider si nous on les garde ou pas. Ceux qui sont venus au culte avant-hier, vendredi saint, ont écouté tout le récit de la passion et de la crucifixion de Jésus et de sa mise au tombeau, qui occupe dans l'évangile de Marc 2 chapitres complets. Et c'est parmi les plus longs chapitres de l'évangile. 2 chapitres très longs, nous avons écouté ces lectures. Et vous avez remarqué combien est courte la lecture de la résurrection dans Marc. C'est très court, beaucoup plus court. Et on peut se demander, mais pourquoi se sont-ils, les apôtres se sont-ils tellement attardés pour nous parler longuement des souffrances de Jésus, de sa passion, de son arrestation, de son jugement inique, de sa crucifixion, de sa mise au tombeau. Et pourquoi est-ce si court la résurrection ? Eh bien, premièrement, je voudrais que nous saisissions que là, il y a vraiment un indice qui a de vérité, car si on avait inventé ces événements, on aurait beaucoup plus développé la résurrection. Et on se serait moins attardé sur le côté sombre, sur la passion de Jésus, sur le côté triste. Mais ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Donc c'est que la résurrection, pour eux, ils n'ont pas inventé, comme c'est écrit. On peut, même si on ne croit pas, réfléchir un peu pourquoi on nous a écrit la résurrection de cette manière. Si peu de mots, c'est pas de la gloriole bling-bling. On nous a pas rajouté plein de détails glorieux. On nous a juste dit que ça a surpris les femmes. Elles ont eu tellement peur qu'elles ont pris leurs jambes à leur cou et se sont enfuies. Elles ne comprenaient rien et n'en ont pas parlé, elles ne pouvaient pas parler. Cet événement est traumatisant, que la vie maintenant prend le dessus sur la mort. C'était traumatisant. Donc il y a là un indice de vérité. Et puis, si on avait voulu inventer un récit de résurrection, on n'aurait pas choisi les femmes comme témoins. Aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. À l'époque, le témoignage des femmes, encore dans certains pays aujourd'hui musulmans, le témoignage des femmes n'est pas recevable dans un tribunal. Mais ce sont les femmes qui l'ont vu le premier, le tombeau vide. Et un pasteur qui a étudié ces textes a dit « C'est drôle que l'Église n'en fasse pas assez fortement mémoire, qu'elle n'en tire pas des conclusions ». Parce que dans l'Église, les femmes n'ont pas tellement leur place. Enfin, ça commence à changer. Alors pourquoi les textes de la passion, de la souffrance de Jésus, de sa mort, sont beaucoup plus développés? J'ai trouvé une réponse dans Colossiens, au chapitre 2, verset 15. Christ a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Je relis ce verset, Colossiens 2, 15. Christ a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Et je suis allé chercher sur Internet comment se passe un cortège triomphal chez les Romains après une victoire militaire. Car là, il fait référence à quelque chose que les gens connaissaient. Les Romains faisaient des cortèges triomphaux après une victoire. Eh bien, les ennemis vaincus étaient devant le général qui avait gagné la guerre. On faisait défiler devant le général, devant son cheval, des captifs, des gens qui vont être réduits en esclavage, avec les symboles du pays qui a été conquis par l'armée romaine. Tout ça défile devant le général, pas derrière, devant. Eh bien, les récits de la passion de Jésus, de sa mort, ont été écrits de telle sorte que nous voyons déjà cette victoire de Jésus dans la façon dont Jésus a souffert et dont Jésus est mort. Martin Luther, concernant l'angoisse que Jésus a vécue à Gethsémané, devant la mort, écrit ceci: jamais être humain n'a eu peur de la mort comme Jésus. Jésus a eu la peur de la mort à Gethsémané. Il dit qu'il était saisi d'une tristesse mortelle et qu'il avait besoin d'aide. Et il ne l'a pas trouvé. Il a fait ce combat tout seul. Tout seul. Tout seul. Il a prié, prié, prié. Et après, il était prêt. Il s'avance, calme. Il a réussi à vaincre la tentation. Et la croix et tout ce qui est le jugement inique devant les autorités religieuses, devant les autorités politiques romaines, tout ça, il le vit souverainement. Il ne répond pas aux questions pièges, il ne se laisse pas piéger par les questions. Toute sa vie, on a essayé de le coincer par des questions pièges. Toute sa vie, il avait une sagesse pour répondre. Lisez l'Évangile, quand on repense clairement que Jésus était tout le temps piégé, on voulait tout le temps le piéger. Et jamais une parole fausse ou une parole de trop n'est sortie de sa bouche ou une parole haineuse. Donc déjà, nous voyons la façon dont Jésus subit le traitement injuste d'un procès bâclé, avec des faux témoins, avec des mensonges, avec des humiliations, avec des gifles, avec des moqueries, comme c'est pas possible. Et il subit tout ça dans la paix. C'est pour ça qu'avant même sa mort, il dit à ses disciples: je vous laisse ma paix. Il le dit avant sa mort. Je vous donne ma paix. Donc c'est qu'il était en paix. Et que devant cette torture terrible qu'on lui inflige, lui est profondément en paix et il la transmet. Et tenez-vous bien, j'ai trouvé un texte dans Jean 17, vous pouvez aller voir, dans Jean 17, il dit à ses disciples avant sa mort: je dis ces choses afin que ma joie soit en eux et que leur joie soit parfaite. Avant sa mort, il parle d'une joie qui est parfaite et qu'il lègue, qu'il transmet aux siens dans la prière. Donc Jésus est allé déjà en ayant vaincu l'angoisse, en ayant vaincu la tristesse. Il peut transmettre déjà avant sa mort la joie et il la transmet, la paix, il la transmet, il la lègue à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui ont cru en lui mais dont la foi va chanceler. Et ça aussi, ça a été une épreuve dans la passion de Jésus, de voir que tous ses disciples l'ont abandonné, tous, ils ont fui. Quand il a été arrêté au jardin de Gethsémané. Et quelqu'un, ironiquement, a dit: c'est là qu'on voit l'unité de l'Église. Donc tous fuient. Personne n'a été capable de suivre Jésus. Pourtant, il dit aussi, lui, il a dit à ses disciples, si vous voulez être mes disciples, renoncez à tout, renoncez à votre vie, suivez-moi. Et personne n'a été capable. Même Pierre, qui a essayé de faire de la prolongation dans la résistance, en allant jusqu'à dans la cour du grand prêtre, jusqu'au plus près du jugement de Jésus, lui aussi, il a renié. Il a renié trois fois, il a même juré, se maudissant s'il ment, « Je ne suis pas des disciples de cet homme. » Donc Jésus a vécu la trahison de Judas, c'est très connu, mais il a aussi vécu, au moment où il va mourir, que les siens ont cessé de croire. Ils ont cessé de croire en lui. Ça n'a pas, leur foi était réelle, mais là, elle a buté. Là, elle s'est effondrée. Et ça, Jésus l'a surmonté, cette déception que les siens n'ont pas suivi. Cette déception, il l'a surmontée dans la prière. Dans lisez Jean 17, c'est sa dernière prière qu'il fait sur terre, et il l'a fait pour qu'on connaisse exactement ce qu'il a prié. Il dit à son père que maintenant ils ont eux aussi la foi. Eux aussi vont recevoir la foi. Ils vont chuter dans la foi, mais ils vont recevoir une foi de nouveau, bien plus solide. Et Pierre sera plus solide après. Jésus le retrouve après sa résurrection, ça vous le savez bien. Et on voit un Pierre différent dans les Actes des Apôtres. Deux fois, on le voit mis en prison et risquant la mort. Et il tient ferme. Parce que le Seigneur, il le connaît mieux maintenant. Donc nous voyons Jésus s'avancer vers la mort comme un général romain qui triomphe déjà. Et il pousse devant lui la tristesse écartée, l'angoisse écartée, le manque de fiabilité de ses disciples. Eh bien, il va y remédier. Tout ça, il est vainqueur. Vainqueur dans la prière, car il a tout vécu. Ses victoires dans la prière, et il annonce les choses dans la prière que Dieu va triompher du cœur inconstant de ses disciples. De quoi a-t-il encore triomphé quand il est allé sur la croix? L'apôtre Pierre, chez Corneille, parle de ce qu'ont annoncé les prophètes. Tous les prophètes, dit l'apôtre Pierre, tous les prophètes ont annoncé que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Eh bien, tous les péchés des hommes se sont manifestés à ce moment-là. Jésus appelle cette heure vers laquelle il est allé l'heure des ténèbres. C'est terrible, l'heure des ténèbres. Aucune lumière. C'est cette heure-là qu'il est entré dedans. L'heure du prince de ce monde, l'heure où ce prince va être jeté dehors. Voilà comment il qualifie l'heure où il est crucifié. L'heure où le prince de ce monde sera jeté dehors, jugé, jeté dehors. Pas les hommes, mais le prince de ce monde. Donc il a affronté victorieusement tous les péchés. Il les a pris sur lui. Au point que ceux qui l'ont vu crucifié ont vu en lui juste un homme pécheur. La plupart, sauf un des brigands, a dit « cet homme était juste ». Et après, quand il est mort, l'officier romain aussi a dit « cet homme était juste ». Mais tous ont vu dans la croix la preuve que c'est un homme pécheur, la preuve qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il disait, puisqu'il ne descend pas de la croix, la preuve que c'est un imposteur. Tout ça, ça lui a été dit sur la croix, tant et plus, par les badauds, par les responsables religieux qui hochaient la tête. En grec, c'est le verbe kinéo. Il disait, si tu as guéri les gens, eh ben guéris-toi toi-même. Descends de la croix et on croira en toi. Voilà, ils se sont mis à faire de la kinésithérapie
en lui disant « Thérapise-toi toi-même, tu as thérapisé les autres, tu as guéri les autres, et tu ne te guéris pas. Te voilà bien maintenant. » Voilà comment parler à Jésus sur la croix. Donc, le bien qu'il a fait, c'est retourner en argument contre lui. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, faire du bien et que ça vous soit retourné en mal? Eh bien, Jésus l'a vécu. Et ça aussi, il a surmonté, parce qu'il ne s'est pas laissé aller à la haine. Comment a-t-il prié? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, dans toutes ces choses, nous voyons Jésus déjà vainqueur comme un général romain, victorieux des combats, et il pousse devant lui la haine écartée, la tristesse écartée, l'angoisse écartée, le manque de fiabilité des siens écarté. Ils croient qu'ils vont être capables, parce que le Père va leur donner le Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais finir avec ça, que dans cette maison de Corneille, Pierre, au moment où il parle du pardon des péchés annoncé par les prophètes, il n'a pas le temps de continuer parce qu'il allait dire encore autre chose. Parce que les prophètes, chaque fois qu'ils parlaient de la nouvelle alliance, ils parlaient aussi de la venue du Saint-Esprit qui fera les cœurs nouveaux à l'intérieur des personnes. Et il n'a pas le temps de le dire, le Saint-Esprit était déjà tombé sur les gens qui étaient là. Et il dira à Jérusalem, où on va lui faire passer un savon parce qu'il est allé chez Corneille, chez un Romain, lui le Juif, est allé chez un Romain, vous pensez, et il a dû rendre compte, hein, ça bardait. Hein. Mais enfin, il est arrivé avec cet argument à les convaincre, il a dit, est-ce que je pouvais refuser de baptiser des gens qui ont reçu le Saint-Esprit? J'ai pas eu le temps de parler du Saint-Esprit, il l'avait déjà reçu. Alors là, ils ont commencé à se gratter la tête, ils se sont dit, ah bah oui, oui, on ne peut pas quand même dire qu'on est plus meilleur théologien que Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit, alors oui, même s'ils ne sont pas juifs, d'accord, ils font partie ils reçoivent l'alliance, oui d'accord, c'est bon. Ils ont reçu l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance, ils l'ont reçue puisque le Saint-Esprit est venu en eux. Vous voyez comment le Saint-Esprit est fondamental dans la nouvelle alliance. Parce que c'est lui qui nous convainc que cette vie de Jésus, elle nous est communiquée. C'est lui, par le Saint-Esprit, que nous vivons de cette obéissance de Jésus qui va devenir notre obéissance. Comment est-ce que nous pouvons nous changer? Personne ne peut se changer soi-même. On peut faire du travail sur soi-même, mais ça a des limites. Ça a des limites. Mais Dieu peut profondément inscrire en nous une autre obéissance que dont nous ne sommes pas capables, mais dont nous sommes capables par Jésus, par sa mort et sa résurrection. C'est son obéissance qui nous rend capables d'obéir comme lui, depuis le baptême jusqu'à la croix. Est-ce que nous croyons cela? Que nous pouvons aller jusqu'à la croix avec Jésus? Ce que Pierre, aucun disciple n'a pu faire, après ils peuvent le faire, avec la résurrection, ils peuvent le faire. Il ne faut jamais croire un pasteur quand il dit qu'il finit. Je veux juste maintenant lire une citation de Eugenio Zoli. C'est un ancien grand rabbin de Rome. Il a rencontré Jésus. C'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'il écrit. « Vous tous qui passez par ce chemin, contemplez la divinité et l'humanité crucifiée. Et pourtant, dans le Christ, ainsi outragé, méprisé et humilié, se trouve la plus haute expression de la résurrection. En lui, tout chagrin devient pur et saint. À chacun qui erre, et à chacun qui meurt en lui, le Christ dit « Lève-toi et marche. » Et j'obéis. Le cœur rempli de tristesse, je me lève et je suis dans les pas du Christ. Amen.